Ouais, j'ai envie de...
C'est de la danse.
Ah, c'est pas vu.
Non, non,
Lorsque mon cher Abénou est arrivé chez Paro, une des nombreuses fois, et qu'il lui a dit que voilà, il voulait partir, etc. Alors Paro lui a dit, Ruhu ki ra'a neged pnechem. Regardez, il y a le ra'a qui est juste en face de vous. Et Rashi explique, Midrash Agada Shamati, dit-il, j'ai entendu un Midrash qui dit que Kochav Echad Yesh Sheshmo Ra'a, et ça veut dire Roé Ani Beitstagninut Sheli Oto Kochav Ole Likratchem Bamidbar Veu Siman Dam Vehariga. וזהו שנאמר היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם, שהיו אומרים לכם דם אנו רואים עליכם במדבר. התורה נו raconte ça, פרעה a dit, cette chose-là à Moshe Rabbeinu, il a dit que d'après ce midrash que Rashi a rapporté, un midrash qui dit qu'il y a une étoile ou une planète qui apparaît, certains disaient c'est toutes les 70 ans, qui apparaît de temps en temps, et cette planète, Paro a dit, ça veut dire que moi, dans mes recherches astrologiques, au sujet du peuple d'Ebné Israël, je vois qu'ils ont dans leur thème astral, il y a que ils vont devoir affronter le sang et la mort. Donc, c'est très mauvais pour vous. Donc, il dit à Moshe, conseil d'amis, quoi. Donne un conseil d'expert. Finalement, il dit, en tout cas, ne prenez pas vos enfants avec vous, parce que peut-être les adultes dans cette situation, ils pourront se débrouiller, mais les enfants. Il y a un chidouche ici dans la façon de gouverner le clan Israël, puisqu'on tient compte ici d'une planète ou d'une étoile. Or, tout le monde connaît le principe que Ein Mazal l'Israël, que le clan d'Israël ne dépend pas des configurations astronomiques. Et donc, on va devoir essayer de comprendre pourquoi la Torah nous raconte ça et le présente comme quelque chose d'important. Si ça a été mis dans la Torah, c'est pour qu'on en fasse quelque chose, quoi. Ça veut dire quelque chose, évidemment. Et voilà, Claudine. Alors, pour mettre les choses au point, on l'a déjà dit souvent, le clan d'Israël, l'existence du clan d'Israël parmi les nations, c'est quelque chose qui n'est pas naturel du tout. Déjà, Rabbi Yehuda Lévi avait très bien dit que le clan d'Israël, c'est le cœur, il est le cœur dans les nations, mais il est à la fois le plus fort et à la fois le plus faible. Il est la partie principale du corps. C'est lui qui distribue pour tout le monde. Mais il est aussi le plus sensible. Il réagit à toutes sortes, à tout ce qui se passe assez directement. Ça veut dire, le clan d'Israël, en vérité, il n'appartient pas à la nature. Il ne fait pas partie des 70 Oumot HaOlam, qui sont l'ensemble des peuples du monde. Il a une autre réalité. Il existe, mais d'une autre manière. Hazal utilise cette image. Une des images qui sont données, le clan d'Israël c'est un agneau qui est entouré de 70 loups qui lui bouffent la laine sur le dos, mais qui ne peuvent pas le tuer. Mais d'après les lois de la nature, le clan d'Israël n'aurait pas dû pouvoir exister. Mais sa réalité, elle vient de ce qu'il y a une force hein, quasi surnaturelle c'est-à-dire qu'avec la sortie d'Égypte les Chachamim disent qu'il y a un morceau d'au-dessus de la nature qui est tombé là, qui est arrivé dans le monde. Ce morceau-là s'appelle Klal Israël. Et c'est ça qu'on veut dire quand Chazal disent Atem Kruim Adam, dit au Bnei Israël, vous vous êtes appelé Adam. Et les Oumot HaOlam ne sont pas appelés Adam. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas humains, au contraire. Mais ça veut dire qu'ils ne jouent pas le rôle de Adam. Et les Bnei Israël jouent le rôle de Adam. Et Adam, bien entendu, ce n'est pas quelque chose de naturel. Seulement, après que Adam ait fauté, il y a eu ce fameux mélange, cette tarovette du mal, cette zoama du nahash, cette espèce de trace du serpent en l'homme, qui cache cette qualité de Adam. Par rapport à cela, le clan l'a reçu, le clan Israël l'a reçu au moment de la sortie d'Égypte. Il a reçu deux mitzvot qui ont à voir avec le sang. On en a déjà parlé, c'est la Mila et le sang du Corban Pessah. La Mila, elle enlève ce qu'on appelle la Orla, l'écran qui ferme le cœur, quoi, quelque part, et qui est la cause de ce que il y a cette tarovet, ce mélange dans le corps de l'homme. Et le Korban Pessah, il vient mettre en évidence, il vient extraire de cette situation ce principe de Béni Bechori Israël. C'est-à-dire que extraire de l'Égypte, de tous ces commencements, etc., égyptiens, Et donc, dans le, si on regarde maintenant l'équivalent du Korban Pessah que Yaakov a amené à Yitzhak, son père. Vous vous souvenez quand Yaakov a amené le plat qu'Yitzhak avait demandé à Esav d'amener pour lui donner les bénédictions. Ici, il y en a qui disent que c'est Rosh Hashanah. Il dit c'est une sorte de Korban Pessah que Yaakov a amené à Yitzhak. Parce que en apportant ce plat-là, il a obtenu que la descendance des Avot soit préservée en quelque sorte. De l'influence de Essav. C'est la raison pour laquelle il y a ce dîn tout à fait particulier qui est spécifique du Korban Pessah, qui est V'chol Harel lo yochal bo. Quelqu'un qui n'a pas fait la Mila n'a pas le droit de manger du Korban Pessah. Dans tous les Kodashim, dans tous les Korbanot, quelqu'un qui n'a pas fait la Mila, il peut manger du Korban. Quelqu'un qui n'a pas fait la Mila, ce n'est pas obligatoirement quelqu'un qui n'a pas voulu la faire. Vous savez bien qu'il y a des gens qui sont hémophiles et qui ne peuvent pas faire la Mila. Ces gens-là ils sont dispensés de cette mitzvah, mais ils sont de plein pied avec tous les autres juifs. Sauf que le Korban Pessah, ils ne pourront pas le manger. Cet homme qui émerge au moment de la sortie d'Égypte, le juif qui naît à ce moment-là, cet homme-là, dis-moi, cet homme qui émerge là, et qui va faire le Korban Pessah. Et là, ce serait contradictoire avec l'essence de ce qu'est cet homme-là et avec le Korban Pessah qu'il va amener. Parce que la Orla, c'est ce mélange de nature, si on peut parler comme ça, et de bouchage du cœur suite à cette fameuse Zohama du Nahash, toute cette histoire de saleté que le Nahash, que le serpent a mis en Chava, c'est-à-dire a mis dans l'humanité. Et donc cette lumière qui doit venir dans l'homme, cette lumière-là, elle ne peut pas arriver à l'homme à cause de cet or-là, à cause de cet écran que la Torah, que le la or-là représente. Tout ça. Ça se passe dans la nuit du 15, 15 Nissan. C'est un temps particulier où pendant À ce moment-là, les Bnei Israël, ils sont nettoyés de tout mélange étranger, une espèce de pureté du clan d'Israël à ce moment-là. Ça, c'est au moment de la nuit en question. Au moment même de la sortie d'Égypte, au moment de la sortie d'Égypte elle-même, le passouk dit « Vegam erev rav ala itam ». Au moment de la sortie elle-même, il n'y a plus cette pureté. Il y a aussi le erev rav, cette espèce de ces gens-là qui sont venus au secours de la vie de la sortie d'Égypte, quoi. C'est les Égyptiens qui ont voulu sortir aussi. Et dans le Paradis Yitzhak, de Rabbi Yitzhak Kuttner, il avait expliqué clairement que dans la nuit du 15, les Bnei Israël étaient complètement propres, quelque part. Il n'y avait aucun mélange. Aucun élément étranger. L'Israël était là-bas, de Taharatam, dans sa pureté. Au moment de cette libération. Mais le matin, il y a déjà ce mélange-là, du Erev Rav, justement. Et à cause de ce mélange-là, alors il y a possibilité, il y a même ça amène des épreuves, de séduction, des obstacles qui vont les accompagner durant tout le désert. Toutes les 40 ans du désert. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que les Bnei Israël, au moment où ils étaient complètement purs, complètement propres avant, et donc on est avant le trajet dans le désert. Et où ils vont être confrontés à toutes sortes de peuples. Par la suite, effectivement, ils vont avoir des épreuves, etc. Pardon? Non, non, ils n'étaient pas de plain-pied avec eux. Ceux qui sont sortis avec eux, c'était des Égyptiens, a priori. Et les Égyptiens, ils côtoyaient pas les Juifs. Quand ils étaient en Égypte, les Juifs étaient inférieurs, en quelque sorte. Ce n'est pas eux qui donnaient le ton. A priori, c'est maintenant les Juifs qui devraient donner le ton. Et les Révraves devraient éventuellement s'assimiler aux Juifs, en fait. Et ça ne s'est pas fait, en tout cas pas au début. C'est ça que Paro a dit. Ruhu ki ra'a neged pnechem, c'est-à-dire je vois la force du mal qui va entraîner la mort, votre mort dans le désert. Et cette mort-là n'est effectivement possible que parce qu'il y a le Erev Rav. Parce que le Erev Rav, il envisage, il fait naître une possibilité de destruction du Klal Israël. Le Klal Israël, quand il est dans cette pureté-là, il est, voilà, il est inattaquable, il n'a pas d'épreuve, et voilà. Le Erev Rav va rendre possible un échec du Klal Israël. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu nous dit, Lama Yomru, à un moment donné, Moshe Rabbeinu nous va dire, suivant, il va donner ça comme argument à Hachem, les Goïms, si tu détruis le clan d'Israël, les Goïms diront, justement, il a fait sortir les Bnei Israël et il les a exposés à ce Ra'a, à cette mauvaise étoile, en quelque sorte, et pour les détruire. C'est comme ça qu'il a réussi, que mon cher Abénou a réussi à annuler le décret divin de destruction du clan d'Israël. Et on a transformé ce problème de sang en sang de la Mila, y compris donc celle de la Mila qui a été faite au temps de Yoshua. C'est marqué Ayom Galoti et Rechpat Mitzrayim Me'alechem. Et Rashi dit là-bas, ça veut dire jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que les Bnei Israël arrivent à Gilgal. Qu'ils arrivent de l'autre côté du Jourdain, quasiment. Le Erev Rav empêchait les Bnei Israël et en fait, les Bnei Israël pouvaient pas être eux-mêmes, quoi, quelque part. Parce qu'il y avait toujours cette force de astrologique du Ra'a. Et donc c'est justement les Erev Rav qui sont eux-mêmes un Erev, comme on dit, sont un mélange de mal, du mal dans le corps du clan d'Israël. C'est eux qui amènent toutes les épreuves des Bnei Israël dans le désert. Ce sont eux qui voient Ara'a Neged Penechem. Eux-mêmes, ils ont bien vu que les Bnei Israël allaient avoir le mal en face d'eux, c'est-à-dire la mort en face d'eux. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on dit dans le livre de Yoshua, aujourd'hui, avec la Mila, ces deuxième Mila, deuxième circoncision, le dam qui était prévu avec cette étoile, ce kohav, ce dam est devenu le dam Mila. J'ai enlevé en quelque sorte ce que les Égyptiens disait qu'il y avait sur vous, dit Hachem. La Mila elle-même, la circoncision elle-même, elle enlève cette force de mélange du mal dans le corps. Celui qui est circoncis, il est protégé de la puissance de séduction du Erev Rav. Dans le Parashat Yitzhak, il explique aussi que ce Erev Rav, il apparaît dans le clan d'Israël durant toute la période du désert jusqu'à ce qu'ils arrivent en Eretz Israël. quand ils entrent en Eretz Israël, alors c'est une autre sorte de Vaït Arvou Bagoïm. Où les Bnei Israël vont devoir se mélanger avec les goïms. C'est-à-dire, au lieu qu'il y ait des goïms qui entrent dans le clan d'Israël, c'est le clan d'Israël qui va entrer chez les goïms. En arrivant en Eretz Israël, ils vont être confrontés avec les goïms autochtones. Et à partir du moment où les Bnei Israël sont entrés en Eretz Israël, alors c'est un autre type d'épreuve qui s'appelle Vaït Arvou Bagoïm. Ils se sont mêlés aux goïms. Et ici, c'est la raison pour laquelle Veshuv mal et bnei Israël shenit. Il était nécessaire de faire une deuxième campagne, en quelque sorte, de circoncision pour les bnei Israël. Il y avait une mila au début des pérégrinations, c'est-à-dire au moment de la sortie d'Égypte. La nuit du. Et finalement, tout ça s'est rattaché à la nuit du 15, au temple de la Géoula. C'est-à-dire, il y a eu un moment, comme on l'a dit, juste avant que le Erev Rav vienne se mêler avec les Bnei Israël. Les Bnei Israël étaient tout seuls, ils étaient purs à ce moment-là. Il n'y avait aucun mélange. Et à Gilgal, quand les Bnei Israël sont entrés en Eretz Israël, alors de la même manière que pour avoir le droit à la sortie d'Égypte, il a fallu que les Bnei Israël fassent la Mila, ici aussi, il fallait une deuxième Mila avant qu'ils entrent en Eretz Israël. La Gemara, elle dit, dans Yevamot, elle dit que c'était la prière, Shelo Nitna la Avraham Avinu. Dans la Mila, il y a une double opération. Il y a ce qu'on appelle Mila et prière. C'est-à-dire à la fois, on va couper et ensuite on va dégager le gland. Dans la Mila qui a été ordonnée à Avraham Avinu, il n'y avait que la première partie. C'est pour ça que les musulmans, ils font aussi que la première partie. Mais pour nous, c'est fondamental de faire aussi la deuxième partie. Mais c'était ça la mila particulière qu'il a fallu faire quand les Bnei Israël sont en quelque sorte entrés chez les goïms. Alors vous voyez, quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, eux se sont donc ils ont été séparés des goïms, des Égyptiens. Le niveau zéro de la Kedusha, c'est toujours la séparation. Kedusha, ça veut dire premièrement séparé. Donc les Bnei Israël ont été séparés des Égyptiens, et à un moment donné, pendant un petit laps de temps, ils étaient là tout seul. Le clan d'Israël a existé seul pendant un tout petit laps de temps. Et au matin, quand ils sont vraiment sortis, immédiatement, le Erev Rav s'est joint à eux. C'est-à-dire, il y a eu des éléments étrangers qui sont entrés dans le clan d'Israël. Ces éléments étrangers ont causé tous les problèmes du clan d'Israël dans le désert. Et quand les Bnei Israël arrivent en Eretz Israël, alors c'est présenté ici pas comme le fait que les Bnei Israël vont se retrouver tout seuls, ils ne sont pas du tout tout seuls, puisque quand ils entrent en Eretz Israël, ce qu'ils ont devant eux, c'est 7 années de guerre. Pendant 7 ans, ils vont faire la guerre contre les peuples installés, ce qu'on appelle les Cananéens. C'est beaucoup de peuples, 7 peuples en fait. Ils ne sont pas tous Cananéens, mais les Cananéens, c'est les principaux. Et à ce moment-là, c'est le contraire. C'est les Bnei Israël qui vont entrer dans les Omot HaOlam. Donc les problèmes étaient complètement différents. Dans le désert, il s'agissait de ne pas être influencé par des éléments étrangers. Qui pourrait modifier de l'intérieur le clan d'Israël, alors que quand ils entrent en Eretz Israël, le problème c'est l'assimilation. Ne pas devenir assimilé, ne pas être assimilé par les goïms. Se noyer parmi les goïms. Et c'est donc très très étrange quand on y réfléchit. Parce que quand on regarde les choses comme ça veut dire que les Bnei Israël, quand ils sont entrés en Eretz Israël, c'est comme si, en fait, ils entraient en galoute. Parce que c'est ça le galoute. C'est quand les Bnei Israël arrivent chez un peuple et qu'ils sont au risque d'être assimilés par ce peuple. Alors, c'est ce qui s'est passé quand les Bnei Israël sont entrés en Eretz Israël. Et donc, si on regarde le fonctionnement du processus, la Mila, c'est une opération qui a pour but d'enlever la Orla. Enlever, Rachid dit, Orla haïnu atima. La Orla, c'est la fermeture. Ça ferme quelque chose. Ou maltem et orlat levavchem, vous ferez la mila de votre cœur, c'est-à-dire il s'agit d'enlever ce qui ferme le cœur, qui le recouvre. Comme on dirait, c'est comme un cœur qui n'est pas accessible parce qu'il est entouré de graisse ou d'éléments qui ne donnent pas accès au cœur. Et c'est bien ce que Onkelès a traduit. En araméen, il a traduit en disant que c'est Tipchout Livron, la bêtise de votre cœur. Le cœur qui ne fonctionne pas, qui ne peut pas fonctionner parce qu'il est fermé. Et quand les Bnei Israël passent du désert à Eretz Israël, alors ils ont un tout autre problème à résoudre. Les problèmes qu'on appelle livrer rechute, c'est-à-dire le problème, c'est que si on se met à labourer à l'époque des labours et à faire tous les travaux qu'il faut faire en leur temps, donc toutes ces choses-là qui sont liées au temps, on ne laboure pas n'importe quand dans l'année. Alors, en fait, le paraditra qu'il avait ramené au nom du Gaon de Vilna, que kolakil kulim, shorasham bizman, tous les échecs, en fait, du clan Israël, ont leurs racines dans le problème du temps. C'est pour ça que dit le Gaon que le galout se mesure en temps. Alors que les réparations, arranger les choses, ça dépend de l'homme. C'est pour ça que la Géoula, elle dépend des générations, c'est-à-dire des hommes. C'est-à-dire 400 ans de galoute, Védor Revii, Yashuvuhena Ligeula. Vous entendez? Le galoute est dit en termes d'années, 400, peu importe. Et la Geoula, elle est dite en disant, la quatrième génération reviendra. Et la génération, donc, ce sont les hommes. Bon, c'était dit dans le. C'est dit qu'ils vont revenir, la quatrième génération reviendront. Ça, c'est écrit dans les psukim. Non, c'est pas que. C'est la. Pardon, c'est. Oui. Ça, c'est que ça, il faut aller regarder comment on compte le temps, les générations pour dire que c'est la quatrième génération qui est revenue. Revenu de Galut Mitzrayim. En fait, la Geoula de Mitzrayim, la libération de l'Égypte, on est sorti d'Égypte, c'est qu'il y a eu un passage du pouvoir du Zman, du temps, qui a été donné aux hommes. C'est ça le pshat du verset. Achodesh hazeh lachem. C'est-à-dire achodesh, c'est-à-dire le temps, dépend de vous. Il est livré à vous. C'est vous qui allez gérer le temps. D'accord? Lachem. C'est le Beddin qui va décider de la durée des mois et de la durée des années aussi. Et quand les Bnei Israël, donc ça se passe, Chodesh Lachem, c'est la sortie d'Égypte. Et quand les Bnei Israël entrent en Eretz Israël, on voit que C'est Yoshua qui dirige. On voit que c'est Yoshua qui arrête le soleil. D'accord? C'est marqué Shemesh Begibon Dam. Il arrête le soleil. Il maîtrise le temps. Keretz Israël, y Eretz HaKodesh, Eretz. Zainou divrei rechout. Eretz, c'est une expression qui veut dire qu'on fait ce que les hommes font, ce qu'ils veulent. Ratz, Eretz. Seulement, ici, c'est Eretz HaKodesh. C'est-à-dire, de tous les divrei rechout qui sont représentés par Eretz, mita'alim, mais il n'y en a achol. Ces choses-là, elles ne restent pas profanes, elles sont sanctifiées en fait. Donc c'est le genre de guerre spécifique pour dominer le temps en quelque sorte, et aussi dominer, c'est-à-dire enlever la fermeture du cœur, qui s'appelle Teva, qui s'appelle la nature. Et sur la lumière, en fait, du premier jour, il est dit, Vayaret Aor Kitov, ça n'a été dit sur aucune autre création. Qu'est-ce que veut dire ce qui tov? Ce qui tov, il est en opposition à justement Ra'a Neged Penechem, cette étoile qui est le mal, donc, en face de vous. Et comme on a dit, Ra'a, c'est la fermeture du cœur dans la nature. Cette fermeture, c'est elle qui entraîne une possibilité de destruction du clan d'Israël. C'est-à-dire, quand on est sous la domination, en quelque sorte, du temps et de l'astrologie, si on peut parler comme ça, qui montre une étoile, une planète, en particulier celle qui s'appelle Ra, et que Paro voit, lui voit que ça va amener la mort. Et Akadosh Baruch Hu a retourné ce sang-là, au lieu d'être le sang versé qui entraîne la mort, c'est un sang qui fait vivre en quelque sorte. C'est ce qu'on dit quand on fait la mila d'un enfant, on dit ce psukim de Yeheskel, Bedamaï chayi, c'est-à-dire dans tes sangs, ce sang-là vit. C'est un sang de vie, en fait. C'est un sang d'alliance. C'est le sang, effectivement, qui indique qu'on a enlevé cet écran, cette fermeture du cœur, qui amène toutes les épreuves sur lesquelles on peut se casser la figure, effectivement. Quand les Bnei Israël sont entrés en Eretz Israël, qui appelait Eretz à Kodesh, à ce moment-là, il y a une nécessité d'une deuxième mila, c'est-à-dire la possibilité de vivre en Eretz Israël c'est-à-dire qu'en Eretz Israël on va devoir faire des choses selon les lois de la nature, on va pas pouvoir labourer à contre-temps, c'est-à-dire on sera bien obligé de tenir compte des lois de la nature pour faire vivre, hein, pour vivre sur cette terre. Et c'est ça en fait, la longueur qu'il y a dans le chapitre de Yoshua, où on dit que ceux qui étaient en Mitzrayim, ils n'avaient pas fait la Mila. Mais ceux qui sont entrés en Eretz Israël, ils ont dû faire la deuxième Mila. Donc c'est justement parce qu'ils étaient dans ce mélange, parce ils allaient entrer dans le domaine. Dans un domaine où la règle, ben c'est la règle qui respecte le temps, qui est obligée de tenir compte du temps. D'accord? Puisqu'il va falloir vivre normalement. Mais immédiatement, on a transformé ce sang qui est négatif en Dame Mila, de telle sorte que les Bnei Israël soient tout de suite au-dessus, même en Eretz Israël, au-dessus du temps et de la nature, en fait. Cette paracha de Erev Rav, elle se termine à Yericho, avec effectivement l'entrée en Eretz Israël. Mais à la fin des temps, si tu veux, juste avant la fin des temps, dans ce qu'on appelle Ikveta de Meshichah, on va retrouver cette situation-là, des événements semblables à ceux qu'on a vécu à ce moment-là. Et il y a une Kabbalah. Une tradition chez Chazal qui dit que le Erev Rav, avant Achrit HaYamim, avant la fin des temps, le Erev Rav va se réveiller. Et c'est lui qui empêche la naissance de la Géoula. Et qui empêche que, justement à cette époque-là, on aura un mérite nouveau qui va nous permettre de vivre cette époque. Et à ce moment-là, le mérite d'entrer, d'arriver à ce que sur cette terre-là, ce soit la Torah qui gouverne et pas le Zman, en fait, c'est que là, on va englober dans notre démarche les trois peuples qu'on s'appelle Kini, Klisi et Kadmoni, qui ont été promis à Abraham Avinu et qu'on n'a pas encore conquis, en fait. Parce que nous, on a Shiva Umot, il y a sept peuples quand on conquiert le Eretz Israël des Cananéens. Mais Abraham Avinu, Hachem lui avait promis 10 peuples, la conquête de 10 peuples. Et il y en a trois, ces trois de Kini, Knisi et Kadmoni, que les Bnei Israël n'ont pas conquis à ce moment-là. Et donc, au temps messianique, il faudra, avant Achrit HaYamim, qu'on conquiert ces territoires-là aussi. Parce que c'est marqué à leur sujet dans la Torah, hein? Ki tishmor et kol ha-mitzvah, etc. Le'ahavat Hashem Elokecha, l'alechet bidrachav kol ha-yamim. Et le Ramban explique que dans ce verset, Hashem lui promet les 10 peuples. Et c'est pour quand? Ben c'est au temps où on dira Umal Hashem Elokecha et Levavcha et Levavzarecha. Quand Hashem fera la mila de ton cœur et du cœur de tes descendants, c'est-à-dire à ce moment-là, on parlera de cette nouvelle mila, c'est-à-dire la mila du cœur, circoncision du cœur. Et d'un mérite nouveau par rapport à la terre d'Israël, Le'ahava et Hashem Elokecha kol hayamim. Aimer Hashem, ton Dieu, définitivement, pour toujours. Un amour qui ne cesse jamais, comme dit le Ramban. Et quand cette époque-là s'éveille, quand cette époque-là commence, c'est une époque extraordinaire. En même temps, se réveille l'opposé, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire le Erev Rav. Et c'est ça le Nisayon. Ce qui est écrit dans les Klalot de Vayikra, c'est Radu Bachem Sonachem, Sonechem, Mikem Ubachem. C'est-à-dire, venant de vous et venant de l'extérieur. Les proverbes où le clan Israël est en danger, de l'intérieur et de l'extérieur. À la limite, on pourrait dire que le clan d'Israël sera en danger, comme il l'a été avec le Erev Rav à la sortie d'Égypte, de l'intérieur, et aussi comme il l'a été au moment où il est entré en Eretz Israël, où le danger était extérieur. Ceux qui, dans le clan d'Israël, voudraient ramener le clan d'Israël sous la dépendance des lois de la nature, c'est-à-dire les faire abandonner, descendre du niveau de Haor Kitov, et ça va aller, ça va durer un peu. Jusqu'à ce que la Géoula arrive et que se réalise le passouk qui dit, c'est un passouk dans Zecharia qui dit Let Erev Yehor. C'est une situation où on va aller vers le soir et néanmoins il y aura de la lumière. C'est comme dans la Géoula, la première Géoula, qui a commencé avec de la lumière. À Chodesh Hazeh Lachem. Cette lumière qui commence là, c'est vous qui le décidez, c'est vous qui la gérez. Ce que je vous ai lu là, c'est un enseignement du gendre du Paradis Tzrak, Rabbi Nosson Devitz, qui est évidemment basé sur les enseignements de son beau-père, mais avec une dimension qu'il a ajoutée. Et mon maître, le Rav Volbeh, il avait pris l'habitude dans ses dernières années, les dernières années de sa vie, d'aller parler avec ce Rabbi Yonasson, qui lui a transmis des enseignements, les siens et aussi probablement des enseignements de Rabbi Tzvi Kouteler, que le Rav Volbé avait consulté avant, mais que quand le Rav Kouteler est décédé, alors il est allé chez son gendre pour parler avec les gens que le Rav Volbé, avec lesquels le Rav Volbé discutait et appréciait. Et donc ici, c'est un enseignement qui montre que le clan d'Israël, on l'avait déjà vu dans les Midrashim, le clan d'Israël avait aucune, enfin, ne pouvait, ex ne vous pouvez, pouvait pas du tout ex exister selon les lois de la nature. D'accord? Il suffit de se souvenir que Sarah et Rivka n'avaient pas d'utérus. Et donc, il n'y a pas de descendance possible. Pardon? Rivka n'avait pas d'utérus. Que effectivement le projet de Yaakov il a été mis en échec par Lavan. Donc, Yaakov Avinu quand il est arrivé, il avait l'intention de construire le clan d'Israël avec Rachel toute seule. Et normalement c'était Rachel sa femme. Il y a dû y avoir un changement assez radical pour que Yaakov Avinu finalement construise le clan d'Israël avec Rachel et Léa, plus les deux Shvachot, plus les deux servantes de Rachel et de Léa. Et puis ensuite, le clan d'Israël, comme on l'a déjà vu, le clan d'Israël a été dirigé depuis la sortie d'Égypte par Moshe, Aaron et Myriam. Et Moshe, Aaron et Myriam, normalement, si Amram et Yochebed avaient vécu selon les lois de la Torah telles qu'elles ont été données, c'est-à-dire que ces lois-là, quand elles ont été données, plus personne ne peut les modifier. Amram ne pouvait pas épouser sa tante. Yochebed était la tante d'Amram. Et donc, si vous voulez, si Amram et Yochebed avaient eu des enfants après Matan Torah, leurs enfants auraient été des Mamzerim. Et donc, que ce soit du côté de la nature, du côté de la halakha, donc là, Israël ne peut pas exister. Il faut pour qu'il existe, en fait, il vit sur une réalité qui est un, il utilisait cette expression, qui est un morceau du surnaturel qui est tombé dans le monde de la nature. Et du coup, les Bnei Israël, confrontés au peuple naturel, alors il est agressé par ces peuples, que ces peuples viennent entre, ben, s'approchent de lui, ou que ces peuples, que ce soit lui qui s'approche d'eux, c'est toujours extrêmement difficile et le clan d'Israël ne peut pas s'en sortir s'il n'y a pas ce processus qui s'appelle circoncision qui s'appelle la Mila. C'est-à-dire, si on ne peut pas enlever un élément de fermeture, le clan Israël ne peut vivre que si on enlève l'élément de fermeture qui empêche le cœur de fonctionner comme il doit fonctionner. Le clan Israël, si vous voulez, il n'est accessible, sa source de vie, elle est accessible que si on enlève quelque chose qui dérange, qui empêche les choses de se faire comme elles doivent se faire. Pas compris.
Pourquoi est-ce que cet élément d'enlever l'élément de fermeture
Oui.
est fondamental pour la survie de l'Israël parmi les peuples, pour son économie? Et comment ça se fait que ça ne concerne que les hommes, que les masculins, pas les femmes? Comment ça concerne les femmes? C'est fondamental dans la
Ça concerne les femmes, c'est la mitzvah de Mila que nous faisons. Elle a été. Nous, on ne fait pas la Mila parce qu'Abraham Avinu a fait la Mila. Nous, on fait la Mila parce que c'est écrit dans Parshat Tazria, Isha ki Tazria v'yalda Zachar. Et tout de suite, on dit Mila. La Mila est présentée pratiquement comme quelque chose qui arrive à l'enfant d'une femme. Alors, c'est l'enfant d'une femme juive, oui, d'accord. Au garçon d'une femme juive. Donc, ça veut dire quelque part, c'est pas que la femme a l'obligation de faire la Mila. La femme n'a pas cette obligation de faire la Mila. Mais c'est son enfant. La Mila est présentée comme une opération qui est tellement. C'est dans les psukim de la Mila sont intégrés au dynime de la naissance, de l'impureté, quand la femme, combien de temps elle va être, etc., impure ou pure, etc. Donc c'est tout à fait intégré. Alors c'est vrai que alors à ce sujet-là, on peut répondre. Il y a des Chazal qui répondent que la femme, elle est réputée circoncise. Elle est comme un enfant qui serait né circoncis. Une femme, c'est pas qu'une femme, elle a rien à voir avec la Mila. Certains disent qu'elle est réputée circoncise. C'est-à-dire qu'elle n'a pas cet écran. Elle n'a pas ce problème à régler. Peut-être qu'elle a déjà réglé le problème avec la naissance, avec la grossesse, je ne sais pas comment il faut l'entendre. Mais c'est très possible qu'effectivement on considère que tout ce processus de naissance, le fait de pouvoir porter des enfants, etc., et donc une obligation de s'ouvrir à un élément étranger qui va venir en vous et qui va pousser en vous et qu'il va falloir ensuite mettre au monde, cette possibilité-là, cette ouverture nécessaire, d'accord, ça fait partie de la condition féminine. Donc c'est peut-être en ça qu'elle est déjà meoula. C'est-à-dire que le cœur est ouvert déjà. Une femme est beaucoup plus ouverte à un élément. Elle est beaucoup plus fragile, si on peut parler comme ça. Elle est ouverte, alors que l'homme, il n'est pas obligatoirement, naturellement ouvert. C'est tout, personne ne va entrer en lui. Il n'est pas ouvert, l'homme. Oui.
En fait, ce qu'on dit, c'est qu'on sort de l'influence de nos fautes par l'au-delà. Et que grâce à maintenant, en fait, on arrive à lutter contre le rêve grave, c'est-à-dire contre cette influence intérieure qui en fait, fait un obstacle avec le cœur et bah, qui nous empêche de ça. Et cette même nuit-là, Une fois qu'on entre en Eretz Israël, il nous a d'habiter contre l'assimilation des peuples, qui viennent de l'extérieur à ce moment-là, et le rapport avec le temps de la dame. C'est-à-dire, quand on parle de l'assimilation des peuples par l'extérieur, on dit ça au temps.
Oui.
Et quand on parle
Parce
d'une
qu'en entrant en Eretz Israël, ils vont devoir tenir compte d'un temps qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que tu ne maîtrises pas le moment où tu dois semer, le moment où tu laboures. Tu ne peux pas décider, tiens, cette année, on va labourer en décembre et moissonner, je ne sais pas, en janvier. Bon, c'est. Le fait de devoir subvenir à nos besoins en cultivant la terre, ça nous met dans la dépendance du temps, du Zman. Alors, ce que fait la. Alors, c'est-à-dire de la nature. Le temps, on veut dire aussi le cycle de la nature. Et donc, au moment où le clan Israël naît, au sortir de l'Égypte, tout de suite, pour qu'il fasse la Mila, pour tout de suite, à Chodesh Hazé Lachem. D'accord? C'est tout de suite. Il y a à Chodesh, c'est-à-dire le temps, le renouveau des phases de la Lune, donc le temps qui se déroule devant vous, Lachem, il est à vous. Hachem nous dit, vous avez ce temps, il est à vous. C'est vous qui allez déterminer. C'est nous qui disons quand le Rosh Chodesh commence, et c'est nous qui décidons si on va ou non ajouter un mois de Hadar supplémentaire. D'accord? Alors, bien sûr, on va tenir compte de toutes sortes de circonstances, mais c'est le Beit Din qui décide. Ce sont les hommes qui décident. C'est-à-dire, on a mis les hommes au-dessus du temps. Alors, ça, c'est très bien dans le désert, comme il n'y a rien de naturel dans le désert, ça va très bien. Quand on arrive en Eretz Israël, alors tout à coup, on va être confronté à un problème qu'on ne connaît pas du tout. On n'a jamais eu à se confronter avec ce problème de l'importance du temps qui s'impose à nous. C'est une espèce de, c'est un destin, je veux dire, qui s'impose à nous, le temps. Alors pour ça, on fait une Mila, pour justement enlever les éléments qui appartiennent au monde de la nature, c'est-à-dire on va modifier le corps humain. Bon, ça veut dire, certains vont dire qu'on va le mutiler, etc., peu importe ce qu'ils en disent, nous, on va modifier le corps humain. C'est une question que, il y a un gouverneur romain qui s'appelle Turnus Rufus, qui avait demandé à Rabbi Akiva. Il a demandé, dis-moi, est-ce que les actions humaines ou les actions divines, lesquelles sont plus parfaites? Alors, il attendait que Rabbi Akiva lui dise, ben, c'est des actions divines. Et à ce moment-là, la question c'était, dans ce cas-là, pourquoi vous vous permettez de modifier le corps humain, qui est le corps tel qu'Hachem l'a décidé, et vous allez le modifier? Mais Rabbi Akiva lui a répondu que non, que le En d'autres termes, ce qu'il lui a dit, c'est que le monde que Hachem a créé, il a créé un monde qui doit être, disons, perfectionné par l'homme. Le chidouche, c'est un chidouche qu'on avait vu quand on a étudié le Ramchal, il y a longtemps. On avait vu que le monde qu'Hachem a créé est un monde imparfait. Hachem n'a pas créé le monde parfait. Mais il a créé le monde imparfait pour que l'homme puisse le parfaire et que l'homme devienne ainsi l'associé d'Hachem dans la création du monde. C'est ça l'ouverture que Hachem a donnée aux hommes. Et donc le corps humain, il doit être modifié. Alors, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on ne modifie pas le corps humain féminin et comment on modifie le corps humain. Alors, moi, je dirais que le corps humain féminin, il est suffisamment modifié par la physiologie et par justement le fait que les relations entre les hommes et les femmes se font d'une certaine manière et pas d'une autre. D'accord? C'est pas du tout symétrique. Et ensuite, toute la grossesse, tout ce processus où une femme va porter en elle un étranger au départ, parce que, qui est pas, bien sûr, c'est son enfant, mais c'est aussi l'enfant du géniteur masculin, qui lui a donc confié sa partie à lui, à la femme. Tu vas t'occuper de mon enfant, quelque part. Oui. C'est pas?
Pour vous réfléchir le monde, ça se fait en vous,
Mais
c'est-à-dire.
c'est une femme qui accepte. La femme n'a pas de... Chez nous, c'est très clair. La femme n'a pas de mitzvah d'avoir des enfants. Donc, elle décide d'avoir... Pour nous, elle décide d'avoir des enfants. Elle n'y est pas du tout contrainte. Une femme n'a pas de mitzvah d'avoir des enfants. Il n'y a pas nécessairement il n'y a pas quelque chose à enlever pour accéder à... Et c'est pour ça que la Mila des Bnei Israël est différente de la Mila des Goïm. Les Goïm, ils font simplement une coupure de prépuce, et puis les Bnei Israël, ils dégagent le gland, c'est-à-dire quelque part, on va mettre à l'extérieur une partie qui normalement aurait dû rester cachée, même si on avait fait la Mila. Quand on fait la Mila, ça dégage pas. Et là, ça va dégager le gland. Donc, ça veut dire on va mettre à nu, si on peut parler comme ça, une partie du corps humain que, par exemple, les Arabes ne font pas ça. Ils ne dégagent pas. C'est juste on coupe, c'est tout.
Et encore cette partie nous permet de mieux lutter contre.
C'est une façon de dégager plus, d'ouvrir plus. On ne peut pas ouvrir encore plus, mais on va ouvrir encore un peu plus, quoi. Quand tu crées tu enlèves une partie qui était fermée, tu ouvres un peu. Et bien, si tu dégages complètement, on peut dire que tu as ouvert plus.
Comme si on la rend plus sensible.
Pardon?
On la rend plus sensible.
Oui, alors ça, c'est un problème. Est-ce que c'est effectivement, ça rend plus sensible? Il y a des gens qui ont discuté de ça. Est-ce que les gens sont plus sensibles s'ils sont circoncis ou s'ils sont moins circoncis en termes de plaisir ou en termes de relations?
En quoi ça permet de lutter contre l'assimilation?
Non, ça permet de montrer l'action de l'homme plus fortement. Bon, l'homme agit plus fortement sur le monde. C'est une domination particulière, supplémentaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quel problème? Il y a un problème? De quoi? Ben oui, elle est sur l'écran. Parce qu'elle n'est pas là. Ok, bon, vous avez des problèmes, on peut continuer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Bnei Israël n'avaient aucun mérite. Et que d'une certaine manière, s'ils n'ont aucun mérite, Akadosh Baruch Hu considérait que c'est pas normal, la kachat lo goy mikerev goy. Si, comment tu vas les dire? Comment tu vas les séparer s'ils sont trop semblables, quoi? Comment c'est pas possible. Il a fallu d'abord que les bénis d'Israël se singularisent et qu'ils aient un mérite particulier qui permette de justifier qu'on les sépare des Égyptiens. Hachem leur a donné ces deux mitzvot. Ils sont en fait une mitzvah avec une autre qui est conditionnelle. Bon, puisqu'on ne peut pas manger le Korban Pessah si on a un homme qui n'aurait pas fait la Mila, il ne peut pas manger du Korban Pessah. Et donc, c'est justement ces deux mitzvot-là qui ont à voir avec le sang. Ça veut dire que pour combattre le Kohavraa, on ne pouvait pas faire une autre mitzvah, faire autre chose qui n'a rien à voir avec le sang. Il fallait traiter le problème du sang et le modifier. On a modifié. On a gardé du sang, il y avait un problème de sang, et on a transformé ce sang, qui était un sang de mort, en un sang de vie. Pardon? Non, le sang qu'on avait, c'est le problème de ce que Paro a dit. Il y a le sang à l'horizon. C'est un peu paradoxal parce que pourquoi ça commence? Et Nazan les Israël. Pourquoi on s'occupe de ça? Mais oui, mais mon cher Abbé, nous, pourquoi tu vois bien que on s'en est occupé, peu importe que Paro le sache ou pas, mais on voit que la Torah, elle n'a pas répondu en disant eh ben, mettez des tzitzit à vos vêtements et puis. Et comme ça, on aura réglé le problème. Il fallait. Pardon?
Ce n'est pas parce que ça avait été dit avant.
Non, c'est pas là. Parce que la mitzvah fondamentale, là, c'est plus le Korban Pessah qui est nouveau. La Mila s'appelle pas Mila de Pessah, c'est. Ah, je ne sais pas du tout. Ça, c'est pas sûr du tout. Personne n'a dit, d'après. Je ne sais pas ce qui serait passé si les Bnei Israël avaient eu un autre mérite. S'ils avaient eu du mérite, alors Hachem n'aurait pas eu besoin de leur donner ces deux mitzvot. Mais s'ils avaient eu des mérites, alors peut-être ces mérites les auraient déjà mis en position de dominer le Zman. Bon, le problème, c'est. Puisqu'il y a un problème de domination, enfin la nature, quoi. Peut-être que si on fait des mitzvot, on domine déjà la nature. Et donc, s'ils avaient eu des mérites, c'est qu'ils auraient fait des mitzvot. Fait des mitzvot, ils auraient déjà dominé la nature, ils n'auraient pas eu besoin de la Mila. C'est parce que les Bnei Israël n'ont pas de mérite, d'après le Midrash, qu'Hachem leur donne ces deux mitzvot-là. Alors pourquoi il donne ces mitzvot-là, me semble-t-il, parce que c'est ces mitzvot-là qui répondent, c'est ce que lui, il pense aussi, on répond à leur problème de Ra'ah, du Kohav Ra'ah. Ça, c'est pas des mitzvot, semble-t-il, c'est pas suffisant. Et puis, c'est des midrashim contradictoires, et les midrashim peuvent être contradictoires. On n'essaie pas toujours de. C'est pas dans la halakha, on ne veut pas de contradiction. Mais dans les midrashim, il peut y avoir. C'est des façons différentes de voir les choses.
N'imagine pas encore les
Ah,
points.
excusez-moi, mais ce n'est pas non plus des éléments anti-naturels. Non, mais donc, ils n'ont pas de mérite. C'est pas un mérite. Ils ont des chapeaux ronds, vivent les Bretons. Les Bretons, ils ont le chapeau rond, c'est pas de mitzvah. Ils ont gardé les chapeaux ronds. Et les. Quoi? Mais c'est pas un mérite. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne se sont pas totalement assimilés? D'accord? Il y a des gens qui considèrent que de se promener avec des vestes courtes, c'est s'assimiler au goyim. Parce qu'avant, tout le monde avait des vestes longues et les goyim, ils ont commencé les vestes courtes. Alors maintenant, les hommes, donc, ont des vestes courtes, c'est une concession à l'esprit du temps des goyim. Donc il y a des gens qui disent non. On a de bonnes raisons pour avoir des manteaux, enfin des vestes longues. Donc on reste avec ces vestes longues. Il reste encore quelque chose de ces vestes longues sous forme de redingotes ou des chefs d'orchestre ou des ministres à certaines occasions, ils se baladent encore avec des. Ou alors, dans les soirées, les gens vont avec des smokings, etc., qui sont aussi, ou des redingotes, des trucs qui sont aussi longs, quoi, qui ne sont pas obligatoirement courts. Pardon? Ah, je sais pas.
C'est pas ça. Non.
Peut-être, je ne sais pas. Ok, on va s'arrêter là.